Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, notre invité du jeudi sera Gérard Glatt pour son livre, son dernier roman, Tête de paille. On va le retrouver dans quelques instants, Gérard Glatt, pour parler de son dernier roman, Tête de paille. Conmigo, Lola, vas a acabar. Voilà, comme annoncé, eh bien, aujourd'hui, dans l'invité du jeudi, nous recevons Gérard Glatt pour son dernier livre, Tête de paille, et on va le retrouver tout de suite. Gérard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue donc sur Radio Craponne, hein. On s'était rencontrés après votre périple pour venir parler de votre livre. Là, c'est un Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, avec ces histoires de Covid. Alors, c'est votre dernier roman. C'est vrai que vous avez écrit énormément de romans, hein, quand même, hein, mais c'est quand même une passion que vous avez depuis très longtemps.
Depuis toujours. Je voulais dire depuis toujours parce que, bon. Oui, j'écris depuis là, à peu près de 7 ans, quoi. Puisque, comme je l'ai dit à l'occasion d'une autre émission avec vous, mon premier poème, c'est quand même donc à cet âge-là, à 7 ans. Et puis voilà, puis j'ai continué.
Oui, alors.
Mais beaucoup.
Oui, je vous en prie.
Non, c'est simplement beaucoup de très nombreux romans ou autres. Non, quand même, faut peut-être pas exagérer. Je dois en être à mon 14e ou 15e livre seulement.
15e, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal, je reconnais.
C'est pas mal. Alors bon, ouais, c'est vrai que vous, c'est en fait, on peut dire que vous êtes parti un petit peu là-dedans parce que c'est vos professeurs de français, hein, qui vous ont initié un peu à l'écriture ou qui vous ont donné envie, du moins.
Ah oui, mais c'est surtout. Déjà, je tâtais un petit peu la plume avant la sixième, j'aimais ça. Mais dès la sixième, avec un écrivain, Jean Marcal, que l'on appelait d'ailleurs, donc, dans l'établissement où j'étais, on l'appelait Monsieur Bertrand, parce que c'était son vrai nom, Monsieur Bertrand. Et Jean Marcal, son nom d'auteur, donc, lui, c'est un peu le premier, parce que bon, c'était un homme assez extraordinaire qui écrivait des pièces de théâtre pour la radio, il écrivait des livres. Bon, il était breton, alors il a écrit, je ne sais pas, lui au moins une cinquantaine de livres sur les légendes bretonnes et tout ça.
D'accord.
Et c'était passionnant de l'entendre, de l'écouter, et on avait envie de faire comme lui.
Voilà, et vous avez suivi sa voix, enfin votre voix, mais à travers lui.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis plus tard encore, avec Roger Vrigny, donc, qui était mon professeur de latin français, qui lui, en fin de terminale, qui a lu ma première nouvelle, d'ailleurs, que j'ai osé lui soumettre, alors que lui, il venait tout juste d'avoir le prix Femina, et puis ensuite, il a eu le grand prix de l'Académie française, donc pour toute son œuvre. Et donc, je lui ai fait lire ma première nouvelle, et après l'avoir lu, il me dit, oh, c'est parfait, c'est merveilleux, mais vraiment, bon, c'est... Et enfin, bref, l'ennui, c'est que vous avez tous les défauts des romantismes. Hein. Alors, il va falloir arranger tout ça.
Voilà. Voilà, ben c'est bien quand on a un guide comme cela, ça permet de se perfectionner, quoi.
Oui.
Alors, c'est vrai que vous avez écrit beaucoup, surtout là, je dirais, depuis, 2008-2009, là, ça a été quand même, puisque ça fait 12 ans, et là, vous en avez sorti quand même pas mal, hein, des romans.
Oui, j'avais écrit mon premier livre, hein, premier roman, il a été publié en 1977.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que j'ai eu un très grand, passage à vide. Non pas que, parce que ce n'est pas que je n'écrivais plus. C'est simplement que mon premier éditeur, chez Kalman Levy, donc c'était le patron, Alain Ullmann, bon, il n'a pas voulu éditer mon deuxième livre. Et j'avais retrouvé, justement, Roger Vrigny, mon ancien professeur de latin français, je l'avais retrouvé, il était directeur littéraire chez Kalman Levy. Et il ne comprenait pas, il n'avait pas compris pourquoi mon deuxième livre ne pouvait pas être publié par Kalman, parce que il a même dit d'ailleurs à Alain Ullmann, le patron de Kalman, il lui dit « mais c'est une injustice que vous faites ça », et il me le dit, il dit ça devant moi. Et l'autre n'en a pas démordu. Et moi, j'ai continué à écrire, mais finalement, je faisais lire à Roger Vrigny, je lui faisais lire toute ma production, mais sachant que de toute façon Kalman ne la publierait pas, et puis ça a duré comme ça des années, et puis voilà, sachant que j'ai toujours, malgré tout, j'ai toujours écrit, et à ce professeur, à Vrigny, je lui montrais toujours tous mes manuscrits.
Ouais.
Voilà, c'est
ouais.
Bon, c'est un passage difficile. Je crois que je le mets d'ailleurs dans l'avant-propos justement de mon dernier livre de Tête de Paille. Je n'ai pas été publié chez Kalman, si ça ne s'est pas poursuivi, c'est parce qu'il y avait une raison un petit peu spécifique qui faisait que Alain Ullmann, il me devait pas mal de choses dans le cadre professionnel.
D'accord.
Et je crois que bon, il fallait effectivement qu'on coupe les ponts, c'était plus sage.
Ou alors bon, sans faire de jeu de mots, ben vous avez trouvé un nouvel horizon, hein, puisqu'après vos livres ont été chez l'éditeur Horizon.
Exactement. Exactement.
C'est eux qui vous ont relancé un petit peu.
Ah oui, complètement. C'est le fait déjà que Roger Vrigny, qui passait de directeur littéraire chez Kalman, donc dans les années 90, devenait éditeur chez Gallimard. Et là, il m'avait dit d'ailleurs, parce que Tête de Paille date à l'origine, la première version de Tête de Paille date de cette époque, c'est des années 90, et il avait dit, bon, ben, de toute façon, j'emmène avec moi, c'était donc chez Gallimard, Tête de Paille, et puis un autre roman que j'ai toujours sous le coude d'ailleurs.
D'accord.
Et puis malheureusement, il est décédé à ce moment-là. Et puis il se trouve, donc les années ont passé encore, et puis il y a là un écrivain qui m'écoutait beaucoup et que je voyais souvent, qui me l'utilisait lui aussi tout ce que j'écrivais, qui un jour me dit à l'occasion d'un repas, il me dit, bon, mais écoutez, ce dernier livre, et alors le dernier livre, donc il s'intitulait à l'époque Valentine, c'était ma mère. Et finalement, il a été publié sous le titre, donc, Une poupée dans un fauteuil. Et c'est là, il me dit, bon, mais maintenant, ça suffit, vous vous rendez compte, ça fait le nombre d'années que je lis vos romans et vous ne les montrez à personne. Et celui-là, il faut absolument le montrer. Et j'ai donc présenté à trois éditeurs, et Horizon me l'a pris.
Voilà,
donc voilà. Et je suis reparti.
Et voilà, c'est bien reparti. Après, passé toutes les années, pratiquement, il y en sortait un, voire deux. Donc, vous êtes passé par chez Debouré, par les Presses de la Cité, par France Loisirs, votre dernier, c'est chez Ramsay.
Voilà, exactement.
Alors, pourquoi avoir été chez Ramsay, là, d'un coup ?
Eh bien, chez Ramsay, parce que j'étais aux Presses de la Cité.
Oui.
Et donc, mon éditrice, elle a... C'est-à-dire qu'il faut peut-être que je vous dise, lorsque je suis allé vous voir, donc l'année dernière, pour L'Enfant des Soldanelles.
Oui.
Dans L'Enfant des Soldanelles, qui parle un peu de moi, j'évoquais mon plus jeune frère, et je l'évoquais en une trentaine de lignes. Bon, et il se trouve qu'à l'occasion d'interview, c'était d'ailleurs à Saint-Étienne, et donc d'interview en public, il se trouve que lors de ces deux interviews, des personnes m'ont interrogé sur ces 30 lignes en me disant « Mais vous parlez très peu de ce frère. » Alors, ce n'était pas le propos, puisque l'enfant des Solganel, il n'était pas question de tête de paille. Mais malgré tout, ça les avait interpellés. Pourquoi vous en parlez si peu? Alors, j'ai expliqué. Et par la suite, j'ai donc exhumé de ma paperasse, j'ai sorti la première version de Tête de Paille, et j'ai dit à mon éditrice aux Presses de la Cité, je lui ai dit, écoute, parce que je la tutoie, hein, écoute, moi, j'ai le sentiment que les gens sont intéressés par Tête de Paille. Donc mon jeune frère, qui était donc handicapé mental, et ils sont intéressés par lui. Alors voilà ce livre, je le lui fais lire. Elle le lit, elle en a été troublée, elle me dit, il m'a bouleversé. Mais elle le fait lire à une autre personne. Et donc, bon, il ne pouvait pas rentrer dans la collection, c'est vrai. Ça ne collait pas avec les Presses de la Cité. Et c'est donc Clarisse Hénaudeau, mon éditrice, qui me dit « Mais essaye donc chez Ramsay, ça devrait leur convenir. » C'est comme ça que je suis arrivé chez Ramsay.
Eh bien voilà, c'était une bonne chose. Alors on va parler de ce livre, Tête de Paille. Donc en fait, c'est une histoire vécue. Hein. On vous racontait ce qu'a été votre frère.
Exactement.
Oui.
Exactement. Je l'ai. Il est mort en 1984. Il était handicapé mental. Il est mort. Il était né en 45. Il est mort en 84. Donc il avait 39 ans. Et son histoire, lorsqu'il est mort, je m'étais dit qu'il fallait que j'écrive. Et dans ma tête, si vous voulez, je me suis dit, bon, bah, tu seras le biographe de ton frère. Parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été aimé. C'est vrai qu'il était très difficile, mais d'un autre côté, du côté de la famille de mon père, surtout, bon, il était très très malvenu. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il existe, qu'on le connaisse. Comme l'a écrit d'ailleurs mon père, j'ai retrouvé des courriers et quelques lettres et quelques écrits de mon père où il mettait qu'il était handicapé mental, mais pas inintelligent. Et c'est vrai que c'est un être qui ne savait donc, il n'a jamais su ni lire ni écrire. Il était, comme je le dis souvent, mal fichu dans sa tête et dans son corps, parce qu'il était diabétique. Il a passé les 9/10 de sa vie avec des ulcères aux jambes. Il a souffert de partout. Et qui plus est, n'était pas très grand, il était très 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 fort. Et dans la rue, bon, je parle des années 50, je parle des années 60. On se promenait dans la rue, les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, je crois que c'est différent.
Oui.
Merci, on a changé.
Il y a un autre regard, oui.
Il y a un autre regard. Mais à l'époque, dans les années 50, moi je me souviens de certaines fois où vraiment il y avait des jeunes qui passaient, qui regardaient cette espèce de j'allais dire d'animal, parce que c'était vraiment ça. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là, quoi? Mmh. Alors que ça n'était jamais que mon frère. Et je vous assure, et je crois que vous le voyez sur la couverture, il y a son visage sur la couverture. Vous l'avez vu, je crois.
Oui, oui, bien sûr, sur le petit...
Sur le bandeau.
Oui, sur le bandeau, et voilà, c'est ça.
Voilà, bon. Il était beau quand même. Ah là là.
Il avait une jolie tête, oui, c'est vrai.
Vous entendez le bruit?
Non, non, il n'y a pas de bruit, c'est bon pour y aller.
Bon. Ouais. Et donc, si vous voulez, il était beau, c'est vrai. Mais c'était une vie, il nous a mené une vie effectivement insupportable. Et puis voilà. Et ce qui est d'autant plus, j'allais dire, insupportable, non pas de sa part, mais de la nôtre, de celle de mes parents et de moi, et même de mon frère aîné, c'est que il se trouve que il a été interné dans une colère folle ma grand-mère, mon oncle n'avait pas tenu les paroles. Il s'était mis dans une colère folle et il se trouve donc que il a été interné d'office et c'était en 68 et jusqu'à sa mort je ne l'ai pas vu. D'accord. Et jusqu'à sa mort mes parents ne l'ont pas vu non plus, donc on savait qu'il existait, on savait qu'il était dans un institut psychiatrique et on savait non loin de chez nous, et pourtant on ne l'a pas vu. Et rien que pour ça, ce livre, si vous voulez, qui le remet en avant, rien que pour ça, ce livre est vraiment le plus important pour moi.
Oui, alors bien sûr, vous parlez de ces enfants hein, qui sont retardés mentaux. Oui. Ouais, comme vous dites, ils ont des réactions. Là, il a eu une réaction très violente. Hein. Il a fallu faire venir les gendarmes hein, pour le calmer hein, et les ambulanciers oui. Parce que c'était une violence. Parce que je pense que, moi je connais pas tout à fait, mais pour en avoir parlé avec d'autres personnes, dans leur tête, comme vous disiez, il y a une certaine intelligence quand même. Alors si on lui avait promis quelque chose et qu'on n'a pas tenu, pour lui, c'était inadmissible, quoi.
Et oui, et c'est ça. Et il était, et exactement. Mais vous savez, c'était, il cherchait finalement. Il ne demandait qu'une chose. Il cherchait même à quand on dit qu'il c'est vrai qu'il était intelligent. Il cherchait à quoi? Mais par exemple, à nous protéger. Assez souvent, il est arrivé que il disait dans la famille, c'est moi le chef. Mais lorsqu'il disait c'est moi le chef et qu'il avait à ce moment-là, il avait 16, 17, 18 ans, mais c'est moi le chef, c'était aussi pour nous protéger.
Oui.
Parce que il n'aurait jamais admis que par exemple que quelqu'un s'en prenne à moi. Aussitôt, il serait allé de l'avant pour maîtriser la personne qui aurait voulu me frapper. Et c'est moi le chef, donc c'était très important ça pour lui. Il nous protégeait. Et l'une des preuves encore de cette intelligence, j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est alors qu'il était interné, c'est sa marraine qui est allée le voir. Il habitait à côté de chez nous et je venais de sortir un livre chez Hachette, Les Contes du Pays Basque. C'était en 1981, par là, oui, c'est ça, en 1981, et elle lui montre le livre et lui l'ouvre. Il regarde les images et tout, et c'est elle qui, lorsqu'elle revient, et c'est elle, sa marraine, qui nous raconte, qui dit, qui nous répète cette phrase qu'il a dite. Comme ça, c'était « Oh, il est intelligent, mon frère. »
D'accord.
Bon, mais c'est dire à quel point lui, il souffrait de ne pas... il souffrait de ne pas avoir pu me suivre. Et l'intelligence, elle était où? Elle était plutôt chez lui que chez moi, là, dans ce cas. Vous vous rendez compte? C'est que toute cette vie, l'enfermement, il était à l'intérieur de lui, alors que vraisemblablement, il aurait voulu pouvoir s'épancher, il aurait voulu pouvoir s'ouvrir, il aurait voulu. Et il n'a jamais rien eu de tout ça.
Alors, Gérard, on va faire une petite pause musicale, on va reprendre après. Alors, j'ai choisi, une musique de film, hein, je ne sais pas, vous doutez peut-être, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, puis c'est un film parle justement de ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
Voilà, donc, pour parler de ce film, et oui, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film assez fort, hein, quand même.
Oui, oui.
Et là, c'est le final où on voit le personnage qui casse une vitre et qui s'en va, quoi, en gros.
Oui, oui.
Alors, moi, la question que je voulais vous poser, est pourquoi on vous a empêché ou de vous-même, vous n'avez jamais voulu aller voir votre frère?
Ah, ça, c'est une... J'allais dire, c'est une question à laquelle je n'aurai jamais de réponse. Bon, il y a une chose certaine, c'est que je m'en souviens très bien. Le milieu familial ne lui convenait pas. Bon, le milieu et ça, les médecins, lorsqu'il a été interné. On a dit à mes parents qu'il fallait pas donc que l'on vienne le voir. Ça, c'était au tout début. Et c'est vrai, je pense qu'il était préférable que l'on ne le voit pas. Et la raison était bien simple, c'est que il se serait vraisemblablement accroché à nous et nous, on se serait vraisemblablement accroché à lui. Les conditions dans lesquelles il a été emmené après que les gendarmes soient arrivés et puis les pompiers et puis les ambulanciers, mes parents n'étaient pas là et donc ça se fait par le biais de ma grand-mère et de mon oncle et parce que donc mon oncle était le frère de mon père, et donc C'est là où il pousse cette colère absolument extraordinaire. Et effrayante, effroyable, paraît-il. Moi, je n'étais pas là non plus. Et donc, si vous voulez, à partir, mes parents se soumettent un petit peu à ce qui a été fait, et ils se soumettent ensuite donc au corps médical, à ce qu'on leur dit. Et puis je crois aussi que bon, on le voit dans le livre, même si c'est un peu édulcoré, mais c'est tout de même assez terrible. Ce que l'on a vécu, c'était affreux. Bon, c'était affreux non seulement à cause de Daniel dans le cadre purement familial, mais aussi l'environnement, si vous voulez. Les gens, mes parents ont été obligés de déménager à cause de lui et donc de l'environnement. Il est vraisemblable que, sans qu'on se le dise, et on n'avait pas envie de revivre tout ça.
D'accord.
Vous voyez, c'est quelque chose que certains peuvent ne pas comprendre, mais il ne faut pas oublier que des enfants handicapés mentaux peuvent parfois détruire des familles.
Oui.
Alors, fallait-il qu'ils nous détruisent, et donc que l'on se détruise tous ensemble, nous avec lui, ou bien est-ce que l'on devait se dire, est-ce que l'on devait finalement admettre ce qui était et mettre un peu une croix dessus.
Et alors, sa marraine dont vous parliez, est-ce qu'elle allait le voir régulièrement?
Elle allait le voir.
Oui.
Elle allait le voir. Et je sais, mais bon, je n'en parle pas trop parce que je n'en suis pas certain. Et mon frère aîné, lui, qui avait 5 ans de plus que moi, et donc 6 ans de plus que Daniel. Et je sais qu'il est allé le voir aussi une fois ou deux, mais très rarement. Mais elle allait le voir effectivement.
Et il la reconnaissait.
Et il la reconnaissait, bien sûr.
Oui, d'accord.
Bien sûr. Et il demandait, et c'est elle qui nous le disait. Il demandait des nouvelles. Il aurait, sans aucun doute, il aurait voulu nous revoir. Et je ne sais pas, mais il y a un passage où je sais que non seulement elle allait le voir, mais certaines fois on le lui amenait.
D'accord.
On le lui amenait, donc il venait donc chez elle et il allait se promener donc à La Norville, à côté d'Arpajon, là où nous habitions. Et il est vrai que moi, je l'ai vu venir jusque sous notre porte. Je l'ai vu venir sous nos fenêtres, je veux dire, et regarder. Sans aucun doute, il attendait de nous voir à la fenêtre, de voir nos visages. Mais il avait cette sagesse de ne jamais, il n'a jamais traversé la rue, il n'a jamais sonné à la porte.
Ouais. Donc, ça devait être dur pour les deux parties quand même.
Mais c'était très dur, c'était très dur. Et vous savez, et d'autant plus dur que par ailleurs, donc, que par ailleurs, il nous a apporté jusqu'à un certain âge, il nous a apporté des sourires quand même. C'était un gamin avec lequel, bon, moi je tout jeune, mais on jouait, on était ensemble, on était beaucoup plus proches qu'avec notre frère aîné. On avait un an de différence, alors qu'avec notre frère aîné, on avait donc 5 et 6 ans de plus.
Oui.
5 et 6 ans, c'était beaucoup quand on en a, quand soi-même on en a 6, 7, 8. Et que le frère aîné, 8 et 6, ça fait quand même 14.
Ouais, bon, ça fait beaucoup.
Il, il était dans une autre sphère. Donc on était tous les deux malgré tout.
Oui. Et alors, donc dans cette maison spécialisée là pour handicapés mentaux, votre marraine qui allait le voir régulièrement, est-ce qu'elle sentait, elle, qu'il était quand même pas trop malheureux, pas dire heureux, mais qu'il était pas trop malheureux, qu'on s'occupait quand même de lui?
Pour lui, lorsqu'il a quitté donc l'Institut Barthélémy Durand, là, qui était à Étampes, pour entrer dans une autre maison, dans une maison spécialisée, elle, pour handicapés mentaux, adultes, lorsqu'il est sorti de là, il parlait d'un tunnel qui n'en finissait plus. Bon, donc je crois qu'il a été malheureux. Hein.
Oui. Oui, d'accord.
Alors,
bien sûr, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte des années, hein, parce que ça a énormément changé. Alors moi, j'ai eu la chance, si on peut dire, d'aller dans une maison comme ça où il y a des personnes qui sont handicapées mentaux, retardées, qui sont dans leur monde, hein, mais alors qui ont un environnement qui fait tout pour les rendre heureux. Et on sent qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien, même si peut-être ils ne se rendent pas toujours compte. Mais ça, c'est en 2000, hein, c'était pas en 1960 hein, ou 68.
Et oui.
Et ça a beaucoup changé de ce côté aussi.
Oui, ça, je crois que ça a beaucoup changé. Mais vous savez, il y avait quand même, bon, à l'époque, et ça c'est une sottise que mes parents se sont longtemps reprochés. C'est ma mère, c'était à une certaine époque, elle s'était rapprochée de Madame de Gaulle. Bon, vous savez que les de Gaulle, ils avaient une fille qui était handicapée mentale.
Oui.
Et donc, elle avait pris sur elle, elle avait écrit. Et c'est vrai que donc la personne qui travaillait avec Madame de Gaulle, donc et une certaine Madame Vallot, et elle s'en était occupée, et elle avait trouvé une place, une maison qui venait juste de s'ouvrir dans le Lot, à CP, je crois que c'est dans le Lot, et finalement, donc elle avait trouvé une place. Elle avait dit, elle avait écrit donc à mes parents, donc voilà. Mais malheureusement, à ce moment-là, mon frère était à l'hôpital de la Pitié, soigné pour son diabète. Et le professeur qui s'occupait de lui a dit, oh ben non, il serait mieux quand même qu'il reste avec nous plutôt que de partir. Et il a trouvé, et donc lui, de son côté, s'est donné pour trouver une maison plus près de Paris.
D'accord.
Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui fait que le projet, donc, de la personne qui travaillait avec un décolle, ce projet est tombé dans l'eau, et ça, peut-être que là c'était très malheureux, parce qu'on commençait quand même à cette époque à créer des maisons. Il y avait des institutions qui des associations qui travaillaient pour ça, et bon, ça venait petit à petit. Daniel n'en a pas profité, et vous avez raison, moi je sais très bien qu'aujourd'hui mon frère, tel qu'il était, sachant qu'il était capable de prendre l'autobus et de revenir, si vous voulez, donc quand nous étions à Saint-Mandé, tout près de Paris, bon, sans aucun doute, aujourd'hui, il aurait trouvé sa place dans un CAT, vous savez, c'est
oui, bien sûr.
C'est ça, il aurait travaillé, il aurait été très heureux, j'en suis intimement persuadé.
Alors on parle aujourd'hui du livre de Gérard Glad, Tête de paille, hein, vous l'aurez compris, on peut dire que c'est un drame familial, hein, qui a été vécu sûrement très différemment par les uns et par les autres.
Oui.
Gérard, on va faire une autre petite pause, hein, et puis on se retrouve tout de suite après. Eh bien, on va retrouver Gérard Glad dans quelques instants, et puis on va s'écouter une petite pause musicale avec un coup de folie. C'est Thierry Pastor, mais c'est pas du tout la même folie.
T'as compris?
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui est Gérard Glatt qui nous parle de ce livre émouvant, on peut le dire. Gérard Glatt, Tête de paille, l'histoire d'un frangin qui était handicapé mental. Alors Gérard, dans ce livre, c'est un hommage à votre frère, hein, c'est ce que vous avez voulu un petit peu, quoi.
Oui, je crois que... je lui devais ça. J'ai mis le temps. Mais je lui devais ça. Il fallait absolument que le livre sorte. Et puis, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais dit donc à mon éditrice des presses de la Cité. Je lui ai dit, de toute façon, aucun livre ne sortira tant que Tête de paille n'aura pas été publié.
D'accord.
Et je suis bien content. Il a été publié.
Alors, bon, là, je pense que vos parents n'ont pas eu le loisir de le lire, ou votre marraine,
non,
si. Votre frère aîné?
Non plus.
Ah oui, d'accord. Mais dans la famille, est-ce qu'il reste quand même un peu des membres de la famille qui l'ont connu?
Il reste juste ma belle-sœur, c'est-à-dire la femme de mon frère aîné.
Oui.
Qui vient d'ailleurs... pour ne rien vous cacher, elle vient de le lire.
D'accord.
Et elle m'en a même parlé aujourd'hui.
Eh ben oui, comme quoi.
Oui.
c'est quand même. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, justement, sur le bandeau, les droits d'auteur de la première édition ont été reversés à l'association Les Jours Heureux qui accompagne des personnes en situation de handicap. Et sur celui-là, ça sera également pareil?
Oui. De toute façon,
Et c'est la première fois qu'il est édité, voilà.
Oui, exactement.
Ah oui, donc c'est ça la première édition, d'accord, parce que je ne comprenais
voilà,
pas trop.
Voilà, c'est ça.
Oui, d'accord. Oui,
voilà,
d'accord.
Oui, non.
Non, parce que voilà, je ne comprenais pas, là, oui.
Oui, non, c'est la première fois. Et lorsque je mets la première édition, j'ose espérer, malheureusement, l'époque n'y est pas trop, compte tenu de la pandémie et tout ça. Ouais. Ce qui fait que les livres n'ont pas l'audience sans doute qu'ils mériteraient et qui plus est je le dis franchement je crois que les médias n'en ont rien à faire. Je m'en aperçois un petit peu, je sais pas si je peux m'autoriser à vous le dire, mais
vous pouvez dire ce que vous voulez.
mais je vous le dis, je suis persuadé par exemple que ce serait un acteur de renommée ou un homme politique de renommée lui aussi qui parlerait de la même façon exactement, qui publierait exactement le même livre, j'imagine qu'on ne parlerait que de lui.
Voilà, c'est ça.
Alors que là, c'est vraiment c'est pour ainsi dire rien quoi. Mais malgré tout, parce que je crois sincèrement que les handicapés mentaux, j'arrive certaines fois à me demander, mais ça c'est aujourd'hui, j'aurais dû sans doute me poser la question beaucoup plus tôt, à me demander s'ils ne nous remettent pas un petit peu les pieds sur terre, si vous voulez.
Oui.
Grâce à eux, je dis bien grâce à eux, non pas à cause, grâce à eux, je crois que on a peut-être de temps en temps conscience de notre finitude. On n'est pas grand-chose quand même. On n'est pas grand-chose. On est prétentieux et pourtant on n'est rien.
Oui.
Et je crois que c'est pour ça que ces droits d'auteur que je donne, c'est tout simplement parce qu'ils le méritent tout autant que n'importe quel autre être humain.
Ouais, vous savez, enfin, je sais pas si vous connaissez Graham Allwright, vous avez entendu parler. C'était un chanteur néo-zélandais qui était marié avec la fille de Jean Dasté, et il a une chanson, moi, que je trouve admirable et qui révèle bien un peu ce qu'est l'être humain. Ça s'appelle Deux passages. Et donc, tout au long de cette chanson, ben, il dit qu'on est seulement de passage, c'est pour ça que de temps en temps, il faut un petit peu relativiser.
Oui, exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc, on espère que ce livre va connaître un succès, hein, Gérard Glad, Tête de Paille, chez Ramsay. Et puis, bon, eh bien, déjà, vous avez réalisé votre première promesse, c'était de parler de votre frère et de lui rendre un hommage. C'est chose faite.
Oui.
Et je crois que c'est important.
Enfin, pour moi du moins, et je l'espère aussi. Bon, j'ai quelques échos par le biais du net et d'autres, comme quoi effectivement je vais pas dire que le livre est bouleversant, que c'est un beau témoignage, paraît-il. J'en suis très heureux.
Et puis peut-être pour les familles qui se retrouvent dans cette situation, même si maintenant c'est un peu plus facile, si on peut dire que c'est plus facile, mais il y a quand même des solutions, ben, dire que voilà, il faut pas abandonner ces personnes. Et quand on parle avec des gens qui ont eu des enfants comme ça, retardés mentaux ou trisomiques, ou enfin, quel que soit le handicap, ils disent qu'au bout d'un moment, ils deviennent très attachants.
Oui, oui. Moi, bon, à certaines occasions, j'ai accompagné quelques enfants comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont très attachants. Et il y a évidemment, on est à la radio, on peut pas le voir, mais il y a, dans une revue qui date des années 80, j'avais remarqué, c'était un autiste profond. Et je l'ai toujours. C'est une photo de cet autiste. Vous n'imaginez pas quand on voit la photo, tout ce qu'il y a dans sa tête, tout le tourment qu'il y a dans ce visage. Et ce qui était, et je l'oppose au visage de Daniel qui. Lorsqu'on le voit sur le bandeau de couverture, qui lui a une certaine sérénité, il sourit, il y a une certaine, et pourtant derrière ses yeux, dans ce crâne, il y avait autant de tourments que dans l'autre visage. Et bon, pour moi, rien que de les voir, aujourd'hui, ça me fait vraiment. Bon, je sais même plus. Vous voyez,
oui.
En parlant, j'arrive à même plus savoir où je veux en venir. Ça, c'est. Je suis un petit peu.
Bouleversé.
Bouleversé, oui.
Alors, si vous voulez, pour terminer, parce que là, il va falloir qu'on s'arrête. C'est vrai que c'est très intéressant, mais bon. Mais Moi, j'ai eu la chance, oui, je peux dire que c'est une chance, de faire une émission sur les autistes, parce qu'on avait fait des animations, nous, avec une association de la Loire qui, justement, se battait parce qu'il n'y avait pas d'école pour les autistes. Et j'avais rencontré le président qui avait une fille autiste. Et ce que vous disiez, éloigné de la famille, donc votre frère, lui, c'était l'inverse. Il avait dit qu'au début, c'était très difficile parce que sa fille l'emmenait avec lui partout, hein, au restaurant, dans les magasins. Et parfois, elle avait des réactions un petit peu bizarres, quoi. Hein, comme,
Oui.
Ben, il me disait, oui, mais on a assumé. Et il dit tout doucement, eh bien, on s'est rendu compte que notre fille évoluait. Et voilà. Mais il a dit, ça a été très dur, hein, parce que quand vous êtes dans un restaurant, tout d'un coup, la gamine, ou même la jeune fille, parce que c'était pas forcément une gamine, elle disjoncte, hein, c'est ce qu'on peut dire.
Bien sûr. Quoi.
Et ils se sont rendus compte, maintenant, chez les autistes, que si on arrive à le déceler très, très vite, puis ça peut se déceler très très vite, eh bien si on les met, on les garde en contact, si on les met avec des enfants dans les écoles, eh bien ils progressent très rapidement et ils arrivent pratiquement à guérir. Hein. Donc vous voyez comme quoi il ne faut pas désespérer. Quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis il ne faut pas oublier, moi il y a toujours cet acteur qui a eu, la palme du meilleur acteur, justement, dans un film en belge, je crois. Bon, il était trisomique, quand même. Hein.
Oui.
C'est certain qu'il faut... Il faut les aimer comme on s'aime soi-même, tout simplement.
Voilà.
Et ne pas les regarder autrement.
Très bien. Mais écoutez, Gérard, merci d'avoir été avec nous. Tête de Paille, je rappelle, à Ramsey, puis bien sûr, comme on dit à la fin de chaque émission... On le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Eh oui, j'espère. Et puis, en tous les cas, c'est moi qui vous remercie.
Il est déjà à Craponne, hein, je peux vous le dire.
Alors c'est bon.
Dans la librairie. Ah oui, mais ça peut... en Haute-Loire, donc je pense qu'il est ailleurs. Juste pour terminer, vous en avez un autre sous le coude, là?
Ah, mais il n'est pas sous le coude, il est déjà prévu.
Ah, il est déjà prévu, ça y est. Alors, de quoi vous allez nous parler?
Il est même... Oui, je crois que c'est au mois de mai prochain.
D'accord.
Retour aux presses de la cité.
D'accord, et ça sera retour. Le thème.
Le thème. C'est assez difficile. C'est toujours un père et son fils. C'est pas la recherche du père, mais c'est Il y a toujours un petit peu de ça, si vous voulez.
D'accord. Vous avez le titre déjà, non?
Oui, j'ai le titre. Ben, vous serez le premier. C'est Gaillant, tout simplement. Vous l'aurez. J'ai presque dit le titre déjà tout à l'heure. C'est Gaillant, père et fils.
D'accord. Bon, voilà. Ben, très bien. Eh ben, on attend avec impatience. Écoutez, Gérard, merci d'avoir été avec nous. Bon courage, hein, pour. Vive cette période difficile, surtout peut-être plus difficile à Paris qu'à la campagne. Donc,
mais pas très agréable en tous les cas.
Voilà, oui.
Mais bon, il faut espérer.
Oui, surtout que ça reparte pour un peu tout, parce que là, on pourrait faire encore une émission. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué, et je pense que le Covid tuera beaucoup moins si ça continue que tous les gens qui sont fragiles. Voilà.
Oui.
Merci beaucoup, Gérard, et puis à une prochaine fois pour un prochain livre ou sur un salon du livre, peut-être.
Ah, mais j'espère bien.
Merci de votre amabilité. Et encore bravo.
Allez, merci
au revoir.
Beaucoup.
Au revoir. Voilà, donc Gérard Glatt pour son livre Tête de paille, un livre qui traite du handicap mental. Je vous rappelle que les droits d'auteur de cette édition seront reversés à l'association Les Jours Heureux qui accompagne des personnes en situation de handicap. C'était notre invité du jeudi. Je rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Bonne journée à toutes et à tous. Notre invité du jeudi était Gérard Glatt pour son dernier roman « Tête de paille » chez Ramsay. Vous le trouvez bien sûr dans toutes les bonnes librairies et notamment aux Maisons de la Presse à Craponne chez Viviane et Marie-Pierre. Allez, Maria. Allez, Maria.